Écoutez HDR
99.1.
Weekend, je veux juste lâcher les taux, appeler mes roses, capter au lac et puis boire l'apéro. J'appelle mes gars, leur demande ça dit quoi. Soit on y va, vous êtes parrain et gros. J'amène nos roses, étoiles levées d'eau. C'est le moment de blague et de planer très haut. Oblique, mes parents sont tous les deux morts. Pendant que je me battais pour gagner des lots. Maison piscine, bourgeois. En effet, car j'ai fait le meilleur choix. Celui de charbonner, faire des guerres de trône. Mes rêves de môme dans un feu de joie.
J'suis pas copain avec les gens hautains. Confie des secrets qui finissent en potin. Va te vendre au timbre, je refais la déco au meuble en rotin. Juste là, c'est chaud. C'est là c'est chaud, ouais, je cause au mien, c'est gagné. Et m'étale la crème, garnier, parce que je le vaux bien. Grosse paye, il m'en faut plein. Putain de coche, paye de poids et de pangolin. Faut les vignes, les châteaux et qui sentent mauvais. Ceux qui rendent chauvin, c'est des vivres en province.
On les calcule pas, rien qu'on fait des cas sur cas. Règle les comptes au cas par cas, comme un putain de raciste du KKK. Recherche le bénéfice comme au caca, range, je veux le range, vive, te rends dans le sud de la France avec ma jolie blonde. Je me régale, je déguste une bière allemande. Partie de poker au casino, il est loin le temps, pique dans les casinos. Rolex au poing, oublie la casio, champagne pour les grandes occasions.
Il faut que les gens dans le négatif.
Vous faites du déjà vu, madame Lancaster.
La brumée?
On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Quel putain de bon film! Ah, quel putain de bon film!
Mais c'est de la merde!
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre podcast Déjà Vu. C'est un podcast cinéma qui parle des films et de leurs remakes. Peu connus, meilleurs que l'original ou carrément inutiles. On est là pour les comparer et pour trancher lequel est le meilleur. Aujourd'hui avec moi autour de la table, nos trois petits guélurons, fanfarons, destinés à une carrière de clown et d'acrobate du Cirque du Soleil, il fait finalement de la slackline avec sa copine survivaliste et s'amuse à torturer des poupées Barbie, c'est Maxime.
Salut. Ils nous écoutent.
Oui, ils sont partout. Il est persuadé que la Terre est plate, car quand on regarde au loin, bah, c'est pas en pente. Il a aussi compris qu'une partie de l'humanité est en réalité composée d'aliens hautement intelligents qui ont pour but de nous détruire. Mais il a juré de nous protéger l'ensemble, de protéger l'ensemble de l'humanité. Il est comme ça, lui. C'est Nathan.
Je tire aussi sur des tornades avec mon flingue.
Heureusement qu'il est là. Femme d'affaires accomplie, suivant un régime drastique composé de pilules et d'exercices de lutte grecque. Elle n'a pas le temps pour la souffrance humaine, car l'est-elle vraiment humaine? C'est Géraldine.
Salut. Wow. Salut les andromédiens et les andromédiennes.
Coucou, alors pour ceux qui ont une superbe culture cinématographique, vous avez peut-être deviné de quel film on va parler, ou pas du tout, et donc bienvenue, c'est le concept de l'émission.
Peut-être alors, que tu vas nous le dire,
Mélissa. Je vais le dire. Donc on va parler de Save the Green Planet, qui est un film sud-coréen réalisé par Jung Joon-hwan, désolé pour l'écorchement du nom, réalisé en 2023, sorti en 2003, qui a été remaké en 2025 et qui est connu sous le nom de Bugonia. Donc c'est un film de Yorgos Lanthimos.
2025, l'année des remakes.
Exactement, là on est gâtés, ouais. C'est Noël. Enfin non, c'est plus Noël, mais bref, c'était Noël à un moment cette année. J'ai une petite question d'abord, les aviez-vous vu ou en aviez-vous entendu parler, Nathan?
Moi, Bugonia m'avait intrigué, j'avais vu la bande-annonce. C'est un réalisateur que j'aime pas mal, il avait fait Pauvre créature l'année dernière, je crois, ouais. Il y a deux ans. The Lobster, que j'avais vu aussi, qui était un peu particulier, mais cool. Et là, la bande-annonce avec cette image de d'Emma Stone, toute pâle, le crâne rasé et tout, c'était vachement étrange. Ouais. Et du coup, ça m'intéressait. Mais j'avais pas vu la version originale. Et j'ai attendu le podcast pour voir, du coup, Bugonia quand même.
C'est ça, c'est le moment de se cultiver. Hein. C'est un podcast culture avant tout. Ok, donc Maxime, tu connaissais?
Je connaissais parce qu'il était dans ma liste sur mes notes de téléphone de films remake à voir pour l'émission Déjà Vu. Mais pour une raison que je ne saurais dire, en fait, j'avais cru interpréter que c'était pas vraiment un remake, un truc. Donc je l'avais un peu mis entre parenthèses. Et en fait, quand le film est sorti, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh là, ça a l'air bien fou, mais cool. Et en fait, c'est un vrai remake, quoi. Voilà. C'est pas du tout une adaptation librement inspirée, c'est vraiment un remake. Il n'est plus au cinéma à l'heure où l'épisode sort, mais j'imagine que vous allez pouvoir le trouver de façon légale.
Oui, dans le respect des lois.
Tout à fait.
Géraldine.
Moi, j'ai vu Bugonia au cinéma, mais je connaissais pas du tout l'original. J'en avais jamais entendu parler. Et pareil, un peu comme Nathan, c'est un réalisateur que j'aime bien suivre aussi. J'avais bien aimé Pauvre Créature. J'avais beaucoup aimé La Favorite. Beaucoup moins aimé La Mise à Mort d'un Cerf Sacré, qui est vraiment très très chelou. Okay. C'est un réal qui est quand même intriguant. T'as envie de suivre son travail un peu. Et toi ?
Oui, c'est vrai. Non, aucune connaissance, à part voilà, les notes du téléphone de Maxime qui m'indiquaient qu'on allait peut-être le voir un jour. Bugonia avait l'air d'avoir une belle esthétique, et puis les thèmes un peu théorie du complot, ça pouvait m'intriguer aussi. Et je ne savais pas qu'il y avait cet original, donc c'était une découverte.
Toi, mais ça, tu avais vu Pauvre Créature, je crois.
Oui, j'avais vu Pauvre Créature aussi avec... Ouais, une esthétique assez léchée, des couleurs vives et un truc un peu barré, effectivement, qu'on peut retrouver. Mais je crois que j'avais pas vu beaucoup des autres.
Il a l'air de faire beaucoup de films, parce que. Attends, c'est quoi le film juste avant Bugonia qui est sorti?
Kind of Kindness.
Ouais, qui est sorti très longtemps.
Ouais, c'était 6 mois après Pauvre Créature.
Il a et fait du coup, 6 mois avant Bugonia.
C'est le Quentin Dupieux américain.
C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est quand même moins.
Il y a des liens, quoi. Enfin, je trouve que dans le côté un peu fou. Dans certains de ses scénarios, alors pas forcément dans celui-là, est-ce qu'on peut dire que celui-ci, sans trop spoiler, c'est un peu son Yannick? C'est-à-dire que c'est son film le moins fou et qui.
Et en huis clos.
Ouais.
Ouais, on lui demandera.
Il y aura un remake français du Bugonia.
Je pense que les critiques à l'international se plaisent à dire This is the Yannick.
Alors, on va peut-être faire un épisode bonus avec le remake français et Raphaël Quenard dans le rôle de Jesse Plemons.
Exactement.
qui, je sais pas.
Qui nappe Adèle Exarchopoulos.
Et qui lui fait des monologues de malade. Et en fait, juste, il lui lit son livre.
Déjà vu, right?
내가 미쳤다고 생각할지도 몰라. 처음엔 나도 믿을 수 없었어. 영화 속에서나 일어나는 일인 줄 알았으니까. 저놈이야. 저놈이 최고 책임자야. 이대로 놔뒀다간 엄청난 재앙이 몰려올 거야. 늘 시간이 없어. 우리가 지구를 지켜야 돼. 이번 계기 월식 때 안드로메다에서 왕자가 올 거야.
고향이 안드로메다 아니냐고. 더러운 외계인 놈아!
Save the Green Planet, qui a été réalisé par Jang Jun-wan en 2023.
2003.
Plus rare que moi.
Tout le monde tombe dans ce piège, c'est incroyable.
Rajoutez un 2 à 3.
Donc c'est l'histoire de Lee Beyong-gu, qui est un gars qui croit que les extraterrestres d'Andromède sont sur le point d'attaquer la Terre. Et pour pallier à cette situation, il décide de kidnapper avec son ami Sunni, le dirigeant d'une grande entreprise pharmaceutique qui s'appelle Kang Manchik. Mais il l'appelle Kang pendant tout le film, donc on va l'appeler Kang. Du coup, il va le séquestrer chez lui, dans une maison. C'est une sorte d'ancien sanatorium, ou je sais pas trop, dans la
c'est
montagne.
C'est flippant, ouais. Oui, je crois que c'est ça.
Et du coup, t'as des très grands sous-sols.
Oui.
Du coup, il le séquestre là-dedans. Il commence à le torturer. Il lui rase la tête. Il lui fait plein de trucs parce que il faut pas qu'il puisse contacter son vaisseau. Et surtout, il veut le forcer à faire venir son prince le soir de l'éclipse solaire dans 7 jours. Pour pouvoir discuter directement avec lui. Donc en parallèle de tout ça, pendant ces 7 jours de torture, on va suivre aussi un policier et un détective qui vont mener l'enquête sur la disparition de Kang. Le détective va avoir une première intuition pour aller vers le ravisseur. Il va aller dans cette maison dans la montagne, il va trouver un prétexte pour passer la nuit dedans. Il va rien voir de spécial. jusqu'au lendemain où il découvre des ossements humains et en voulant contacter le policier, en fait, il va se faire choper par le fameux ravisseur Lee qui va le tuer. D'une façon un peu originale dont on pourra en parler.
Des abeilles.
Avec panache.
Qui est fait déjà vu corps, parce qu'on l'a déjà vu dans
Wicked Man. The Wicker Man.
Tout à fait.
Alors, et dans le truc d'horreur. Ouais,
ah, ouais. C'est très récurrent. Enfin.
Les abeilles, c'est saleté d'abeilles.
Alors j'ai l'impression que ça fait 15 000 ans que j'ai vu ce film, alors que c'était vraiment ce matin. En gros, donc voilà, il y a des péripéties, Kang essaie de s'enfuir, ça ne marche pas, il se fait torturer, etc. Jusqu'au point où il craque et il avoue qu'effectivement c'est bien un extraterrestre et que Lee avait raison sur toute la ligne. En fait, les extraterrestres sont là depuis des millions d'années, c'est eux qui ont créé une première espèce d'humain, qui se sont développés, qui ont gagné en technologie, ça a donné l'Atlantide. Ils ont créé leur propre humain à eux, qui était censé être meilleur et qui en fait ont été plus belliqueux, plus violents, à tel point que ça finit en grosse guerre atomique et que les survivants, ça a donné ce qu'on a connu avec l'évolution, etc. Et en fait, ils veulent à tout prix corriger ce gène violent qui menace la Terre. Et c'est pour ça qu'ils ont mené des expériences, y compris sur la mère de Lee, ce qu'on apprend assez tôt dans le film, qui en fait est dans le coma parce qu'elle a subi un traitement pharmaceutique qui l'a mis dans le coma.
Il propose de lui donner un remède, en fait. Donc il dit, fais-lui boire ce truc-là, ce qui est en fait un leurre pour qu'il puisse partir du lieu. Et en gros, Ali va juste empoisonner sa mère et la tuer. Et donc pendant ce temps-là, Kang est seul et il va essayer de s'échapper parce qu'il y a le second policier qui arrive, le plus jeune qui lui est futé.
Ouais.
Il va arriver sur les lieux et là il va y avoir... sorte de confrontation à un Mexican stand-off. Enfin, ils vont être trois, donc l'extraterrestre Kang va dire je vais te montrer comment on fait pour contacter mon empereur, tout ça. Ils vont aller dans, j'ai pas compris, c'était une sorte de centrale.
C'est le labo.
C'est le labo.
Labo pharmaceutique.
Ah bah oui, je suis bête. À ce moment-là, on sait pas si c'est du bullshit ou pas.
C'est ça, et ça joue jusqu'au bout sur le côté est-ce qu'il bluffe ou pas, parce que tout ce qu'il raconte sur la création des humains, l'Atlantide et tout, en fait, c'est des choses, des affiches, des journaux, des théories du complot que le gars a chez lui dans sa cave.
Un peu à la... j'ai oublié le film. Du coup, je vais spoiler un film. Avec Kaiser Soze.
Ah oui, Les Suspects,
où en fait, à un moment, le suspect principal, je ne vais pas dire qui, raconte toute une histoire et en gros l'inspecteur à un moment se retourne et voit que tout ce qu'on lui a raconté c'était en fait que des noms qu'il y avait sur les affiches dans la pièce. Donc on pense que c'est un peu ça.
C'est ça. Et donc ils arrivent au labo le soir de l'éclipse pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour faire venir le prince, l'extraterrestre, etc. Il y a un dernier affrontement et avec l'aide du policier, Lee se fait tuer. Du coup, Kang est sauvé et secouru par la police. Il commence à repartir. Là, je me suis dit, si ça se termine là-dessus, c'est vraiment beaucoup plus subtil que la version américaine. Et sauf que non, puisqu'il y a les extraterrestres qui débarquent en vaisseau pour récupérer Kang. Ils ont une discussion où là, c'est vraiment des extraterrestres très nanardesques avec des costumes hauts en couleur, tout ça.
Des gros lobes d'oreilles.
Qui n'ont pas l'air très futés, d'ailleurs.
Non, non.
De lobster, c'était ça.
Ils discutent, ils arrivent à la conclusion qu'en fait, c'est un peu foutu pour l'humanité. Ouais. Leurs expériences pour essayer de les rendre moins violents, ils vont arrêter là. Et ils préfèrent faire tout péter et mettre un petit terme à la Terre.
Voilà.
Attention, ça va péter.
Fin du film.
Voilà, fin du film.
Très bien.
Merci. Nostradamus l'avait-il prédit?
Je pense.
It's a phenomenon known as déjà vu.
Voilà, donc c'est un film sur le complot, la manipulation psychologique, la folie,
la torture,
l'humour noir,
le grand capital. Voilà,
donc c'est classé comme humour, est-ce que ça vous a fait rire?
Alors, ça m'a pas fait rire, mais il y a des petites libertés niveau mise en scène, quand même assez folles, parce qu'on parlait de...
Genre le slip.
Le slip, j'ai oublié.
Le slip de Kang, c'est genre un slip avec des cœurs et tout.
Ouais.
Il est ridicule. Il y a un décalage, en fait.
Ouais. Comme dans les dessins animés.
Il y a un moment, on parlait du détective qui se fait tuer avec des abeilles. En fait, il lui lance un pot de miel pour attirer la ruche, puis il lui balance ce truc dessus. Et donc t'as toute une nuée d'abeilles qui arrivent pour l'attaquer. Et son premier réflexe, c'est de prendre son flingue et de tirer dans la nuée. Et on voit des gros plans d'abeilles qui tombent.
Une par une. Il arrive à en avoir une par une. Mais ça, c'est drôle.
Moi, je trouve ça génial. Enfin, en fait, c'est de l'humour, mais on sent que c'est aussi... peut-être aussi un peu culturel. Ouais. Parce qu'il y a un truc... Alors ça, faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Il y a un truc dans ce film qui est présent également dans Memories of Murder, qui est un film pas du tout drôle, sur un tueur en série en Corée. Il y a tout un truc avec le coup de pied sauté, qui ouais. doit être très sud-coréen. Parce qu'il y a plusieurs fois où il y a ça au début, quand il kidnappe. Pareil, en fait, il y a un côté presque un peu gaguesque d'attaquer quelqu'un en faisant des coups de pied sautés. Et à la fin, alors on n'en a pas trop parlé, mais son ami Ali... qui en fait travaille dans
sa petite amie, tu peux le dire.
Bah c'est sa petite amie, on sait pas trop si profite d'elle ou quoi.
Ouais, on a l'impression qu'elle est un peu à son service, mais oui, c'est quand même sa copine.
Elle est acrobate.
Et elle est acrobate et Souni. À la fin elle revient et a fait vraiment une attaque genre il y a même
genre teckel quoi.
C'est ça. Elle fait des saltos et tout.
Elle fait des saltos, lui il se retourne, elle a disparu, on se croit dans un manga et en fait et en gros elle apparaît au-dessus comme si elle flottait en l'air. Enfin il y a un côté vraiment assez fou quoi.
Ouais.
Alors quand elle brosse ses poupées là, habillée et qu'elle arrache la tête. En fait c'est absurde mais moi ça m'a mis très mal à l'aise quoi.
Ouais.
Tout le temps.
Oui, c'est ça. C'est pas un pur humour de comédie, mais c'est de l'absurde. Et en même temps, ça mélange énormément de genres, en vrai, parce qu'il y a ce côté un peu à la fois enquête, il y a le côté thriller un peu horrifique.
Il y a un peu du body horror aussi, avec la torture.
C'est très gore et très crade.
C'est très gore. Je pense qu'il peut lui découper des membres, il lui râpe la peau jusqu'au sang, il veut lui mettre des produits dans les yeux, de la menthe dans les yeux, ou un antihistaminique, l'électrocute. Il le crucifie.
Ouais.
Il va clairement lui mettre un énorme godemiché à un moment.
Ah oui, c'est vrai. Il lubrifie.
On est quand même sur le trash, quoi.
Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que malgré toutes ces tortures-là, je trouve que le gars est plutôt en bon état.
Parce que c'est l'empereur. Et je trouve que lui est vraiment. Il a l'air fou, quoi. Enfin, plus que dans.
Et justement, c'est un thème qui est intéressant parce que quand Kang essaie de s'échapper. Donc il retrouve les affaires de Lee, tout ça, et il lit du verbe lire, le journal de Lee.
Il lit.
Et en fait, il voit que le gars a été marqué toute sa vie par des traumatismes violents. Ouais. Il a vu son père mourir dans un accident.
Scène avec le petit parapluie en bois, là, j'ai pas compris ce qu'il faisait.
Bah, c'est un gars qui vient attaquer chez sa mère. Bref, il y a plein de trucs comme ça.
Sa petite amie s'est fait tabasser pendant des manifestations.
Tu vois, à l'école, il se fait humilier par son prof. Son prof qui le fout en slip pour le fouetter devant tout le monde.
Après, voilà, on ça développe va, on une pas passion mort, hein. pour la torture.
C'est et du coup, ça rejoint le discours de fin où il parle des hommes qui sont devenus trop violents et... Justement, le ravisseur, lui, il a été marqué par sa violence.
Il devient
toute sa
encore
vie.
Plus violent que quoi.
Oui, il y a un côté un peu mélodrame aussi là-dessus, ou même satire sociale sur certains trucs.
Bah et oui, SF, le corporate, les grands gestionnaires de la pharmaceutique, et puis les gens qui souffrent derrière, quoi, qui pètent un câble, qui cherchent des réponses là où ils peuvent. Quoi.
Bah, c'est vrai qu'il y a aussi derrière un discours entre guillemets un peu politique, parce que. C'est pas pour rien, je pense qu'ils aient choisi que le père meurt dans un accident à la mine. Il y a tout un discours sur ce côté-là. Le fait que ça soit le chef d'entreprise d'une entreprise pharmaceutique, c'est pas pour rien aussi. Ça montre aussi les doutes que certaines personnes peuvent avoir.
La copine tuée par la répression,
la répression c'est
sociale
ça.
Ou politique.
Ça dit aussi quelque chose sur la Corée du Sud, alors que nous, on connaît un peu moins. On en parlera peut-être après plus sur la version américaine sur ce personnage-là. Mais c'est pas pour rien qu'ils aient choisi vraiment ces trucs-là. J'imagine que la violence dans les écoles, ça doit être aussi un sujet assez important. Et, après, il va dans un centre pénitentiaire.
Pénitentiaire.
Pour un juvie, quoi, enfin pour les jeunes. Et on comprend aussi qu'il se fait carrément tabasser.
Que des bons moments, quoi.
Et ce qu'on apprend petit à petit, surtout à la fin, c'est que. En fait, il a déjà tué plusieurs personnes avant de kidnapper.
Et il lui demande d'ailleurs combien étaient vraiment des extraterrestres. Et je crois qu'il y en avait genre deux ou quelque chose comme ça.
C'est déjà pas mal de.
Deux, c'est pas mal. Belle perf.
Ça dépend le pourcentage de personnes qu'il y a.
Mais bizarrement, j'ai vraiment eu du mal à regarder. Je dois être trop sensible à la torture, mais j'ai eu du mal à regarder certaines scènes, quoi. Bah, tu dois le voir frotter les pieds. Je sais pas. Je trouvais que l'ambiance était quand même sale, quoi. Enfin.
Ah bah oui, l'ambiance, elle est sale, l'image est sale aussi.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est 2003, mais je pense qu'il y avait un truc aussi de, un peu d'image vieillie, mais il y a un grain aussi qui fait que ça paraît un peu crado.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Moi, j'avais vraiment la flemme de le regarder, parce que j'ai vu la version de 2025 avant, et j'avais pas envie de revoir le même film, mais dans une version un peu crade, tout ça.
Bienvenue dans Déjà Vu.
C'est ton plus grand peur qui va se réaliser.
Mais en fait, finalement, il y a tout, tout ce côté film enquête, qu'on en parlera après, mais il n'y a pas forcément dans la version 2020.
Qui est beaucoup plus huis clos. Ouais.
Ouais, et qui est très agréable à regarder, plus que la partie torture.
Qui est très chouette.
Ou c'est le côté détective qui a roulé sa bosse, et puis le jeune premier policier qui veut faire comme lui.
Mais en plus, il y a aussi un côté hyper humoristique, bizarre. C'est que le policier qui a roulé sa bosse, il se fout pas de lui parce qu'il a un odorat ou un. Enfin, il arrive sur la scène de crime, mais je crois qu'il goûte quelque chose ou il sent quelque chose.
Ouais.
Et quelqu'un lui dit alors, le limier, ça va. Enfin,
oui, puis il dit c'est vous qui avez résolu l'affaire de je sais plus quoi, vous aviez suivi l'odeur de merde.
Mais en fait, il dit, mais what the fuck?
Il y a un autre truc un peu drôle qu'on retrouve dans le remake, c'est quand le policier rentre dans la maison. Et qui a une caméra en direct qui montre le PDG ou la PDG, on verra, qui est kidnappé, mais comme un babyphone, quoi.
Ouais, oui.
Et l'autre est en mode, il a oublié de l'éteindre, et donc il fait tout, il n'est pas du tout à l'aise parce qu'il y a le flic qui fait tout pour qu'il ne le voit pas. Il y a un petit côté un peu drôle du mec qui est pas doué, quoi, qui.
Ça fait vraiment vaudeville pour le coup.
Voilà, qui manque à tout le monde de se faire choper.
T'as vu comment il l'éteint ?
Non, je me souviens plus.
Bah, il dit, oh, regarde, il y a
un pied sauté.
Il y a un homme presque. Il dit, oh, il y a un homme. Donc là, il regarde par la fenêtre et en fait, il en profite pour tendre son pied en arrière et éteindre la télécommande avec son doigt.
Donc ça, c'est un peu.
En fait, il y a un côté animation presque.
Quand le détective passe la nuit chez Lee, à un moment, il entend du bruit, il descend dans la cave, il suspecte un truc. Et il est en Marcel blanc avec un pistolet. Une petite calvitie, je trouvais que ça faisait vraiment John McClane, la version coréenne.
Ouais, et ça c'est drôle aussi. Donc le flic descend au sous-sol, puisqu'il entend du bruit, il se dit ça y est, je vais le choper en train de torturer ou d'avoir kidnappé le PDG. Et en fait, tu vois pas, tu vois que Lee de dos, qui est en train de faire des manipulations, et puis il se retourne en mode il est juste en train de désosser un mannequin de magasin. Tu vois, bah quoi,
il est 2h du mat.
Excuse-moi, j'ai cru que tu faisais un truc bizarre. Non, c'est tout à fait sain comme occupation.
Excuse-moi, Laurent, je t'avais pas reconnu.
Excuse-moi.
Ce qui est en fait en vrai plus suspect que toutes les autres trucs qu'il a fait dans la
carrière. Ouais.
Donc ça, c'est pas mal.
Carrément. Après, il y a une autre forme un peu de torture. Justement, on parlait de Sunny, la copine acrobate. En fait, on voit qu'il profite d'elle. Et c'est un peu une autre forme d'emprise et de se sentir supérieur aux personnes. Et elle est vachement manipulée, quoi.
À quel moment elle décide de le laisser tomber?
C'est assez tôt.
Ouais.
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 Oui, mais en fait, elle n'est pas très présente dans ce film-là.
Non.
Elle apparaît qu'à la fin, quand elle a une illumination en disant « Ah, Lee est en danger ».
Mais c'est un peu comme si elle était, comme si elle prenait sa liberté justement en étant. On ne sait pas si elle était acrobate avant. Enfin, on la connaît pas en fait ce personnage. Bon, et puis d'un coup, elle est dans un cirque. Et puis...
Alors, quand il y a tout le passage sur les traumatismes de Lee tout au long de sa vie, c'est fait sous forme de compilation de flashbacks. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé plusieurs épisodes d'une série. Ah mais oui, je me rappelle de ce perso-là. Non,
oui.
Oui.
Parce que c'est bien filmé.
C'est un peu matraqué, quoi.
Tu sens vraiment que c'est des vrais moments qui se sont passés, mais t'as l'impression d'avoir loupé des trucs.
Et sans compter, bon là c'est mon côté Thierry Roland. En fait, il y en a que je sais pas si c'est le même personnage d'avant ou pas, parce que je suis là genre. Merde, est-ce que ce gars-là, on l'a vu ou c'est juste un comment que je reconnais pas, je suis désolé. Et en fait, il y a beaucoup d'infos et tu sais pas si ça va ressortir après ou pas.
Ouais. Genre sa mère se fait attaquer et puis après, lui il se fait attaquer par des gars mais il en tue un. Et puis,
tu sais pas si ça se passe avant ou après, c'est assez...
C'est comme si pour lui c'était déjà brouillé aussi un petit peu dans ses souvenirs.
De toute façon il est pas net le gars.
Ça c'est sûr, il est pas net.
Moi j'aime beaucoup par contre quand il nous raconte, j'aime bien les images d'illustration. quand ils essaient de soit nous raconter des trucs un peu scientifiques, où on voit souvent des schémas ou des, un peu des illustrations de livres un peu bizarres, ou même à la fin, quand,
Kang explique
ouais, qu'il est un extraterrestre, il y a plein d'images, d'illustrations.
Alors, sur les dinosaures.
Ouais, il y a clairement un... Et il y a clairement une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, où en fait on voit un humain soi-disant créé par les... Non, d'abord un humain créé par les Andromédiens. Et en fait, il y a un cordon ombilical qui est accroché à un monolithe noir comme dans 2001. Et après, ça revient... Parce que on voit aussi un primate qui tape avec des os sur d'autres os, comme au tout début de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Mon Dieu. J'ai déjà vu ça.
Alors la fin, c'est très abrupte parce que les Andromédiens décident de faire péter
exploser,
la Terre.
Ouais.
Vraiment, la Terre qui explose, mais...
C'est ça.
Qui explose et tu as dans l'espace une télé qui dérive, qui arrive près de la caméra, et en gros sur la télé on voit des images qui passent de la vie de Lee, mais des images positives ce coup-ci.
Ouais. Trop tard.
Des moments avec son père.
Ah mince, j'avais pas reçu cette cassette là sur les moments positifs.
C'est ça, avec une petite musique douce derrière.
Voilà. Qui nuance un petit peu le propos du film aussi.
C'est quand même pas très frais.
Ouais, mais... Après, en fait, il y a aussi un truc... alors, j'ai l'impression que ça, c'est assez typique du cinéma coréen, c'est que t'as des images ultra violentes, enfin, des scènes ultra violentes, et t'as d'autres scènes avec beaucoup de musique qui sont très mélodramatiques. Mm-hmm. Quand, bah, justement, quand Sunny, elle retrouve et tout ça... C'est très tire-larme, en fait.
Voilà, quand elle a sa révélation, elle est au cirque, là, je sais pas quoi, et elle part d'un coup, prend le bus.
Carrément. Et puis, dans le côté comédie, il y a aussi des scènes où, par exemple, je me rappelle d'un plan où tu vois la caméra sur une route, comme si t'étais dans la voiture, je crois que c'est dans sa voiture, du coup. Mmh. T'es dans un tunnel, puis d'un coup, en fait, tu vois que la caméra, elle change de sens, puis le plan, il est à l'envers. Et ça fait un peu genre film d'action.
Une vie de diesel qui arrive.
Ouais, c'est ça.
Et puis, dans le genre humour, il y a la remarque de Kang, donc, qui arrive dans son vaisseau spatial à la fin. Et les autres, ils sont tout contents, genre en mode ça va, ça s'est bien passé. Et puis il est là, mais non,
c'était
vous
bien.
Voyez pas que j'étais en train de crever. Et puis il fait, on attendait le signal. Il fait, comment voulez-vous que je vous donne le signal avec mes cheveux rasés et tout. Enfin, tu sais, donc un peu la blague de oui, il avait raison, il était coincé, il pouvait pas communiquer avec son vaisseau mère, tu vois. Mais...
Oui, il y a ce truc-là, du coup, des cheveux rasés.
Ça les ridiculise un peu par rapport au pouvoir qu'ils sont censés avoir.
Ouais, c'est ça.
Avoir,
il y a le truc où il lui met de la crème, machin, là.
Ouais.
Ça, c'est...
Alors, est-ce que dans celui-là, c'est plutôt pour le torturer, je crois?
Bah, justement, je sais plus.
Je crois pas.
En fait, il lui rappe les pieds pour que ça rentre plus vite.
Il y a trois zones de sensibilisation. Les pieds, les yeux, et puis...
La troisième, c'est une cognette.
Ouais, l'anus, je sais pas, mais...
Ah oh non, parce qu'il y a vraiment... En fait, il lui dit...
Il va mettre un truc énorme après.
Oui, non, mais en fait, c'est vraiment la partie génitale. Parce que quand il l'explique, il y a un petit schéma un peu en insert où tu vois juste des pieds entourés sur un dessin. Et vu que le troisième, il n'arrive pas trop à le dire, il fait « le troisième, c'est... » Et là, t'as un gros zoom sur le dessin où t'as vraiment...
Puis c'est quand même... En fait, c'est cette ambiance crade avec Sunny qui a l'air dépressif, qui est en mode... Je sais pas, il y a un effet sale. Et puis même le fait qu'il ait besoin de pisser, elle amène le pot. Enfin,
t'es vraiment
dans ce qui pourrait vraiment se passer si tu avais quelqu'un.
Comment tu sais, Mélissa ?
Non, mais je sais pas.
C'est parti faire quoi tout à l'heure ?
Il montre vraiment le côté crade du truc.
Pourquoi t'as gardé une part de gâteau là qu'on se partage ? T'es parti avec tout à l'heure à la cave et t'es revenu sans.
Ça sent un peu la menthe.
Moi, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Parce que justement, j'avais l'impression que c'était un film sur justement toutes les conspirations qu'on peut raconter et tout. Et juste, la fin est quand même surprenante.
Oui.
Je l'ai vu d'abord Bugonia, mais j'ai eu la même réflexion. Pendant tout le film, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça va vraiment être un extraterrestre ou pas? Mais si c'est le cas, c'est un peu nul, mais d'un côté, c'est un peu drôle. En fait, c'est toujours un peu entre les deux, quoi.
Donc tu te demandes un petit peu quel est le discours au final.
Quel est le discours? Mais j'ai pas eu la même impression sur Save the Green Planet et sur Bugonia. Je trouve que même si la fin est similaire, il y a moins un côté gênant dans Save the Green Planet et plus absurde. Alors que dans le remake, on peut plus se poser la question.
Parlons-en. Peut-être parce que Save the Green Planet, il y a dans sa forme un côté plus humoristique. Oui. Donc en fait, t'as vraiment ce truc absurde total où tu dis, ah d'accord, la blague, ils sont allés jusqu'au bout. Quoi.
Ouais. C'est pas la même époque.
C'est pas
la même époque.
Non, monsieur.
Il y a une grosse pression sur le film. Les Américains veulent faire un remake, moi je suis en pourparlers avec l'Allemagne, tout va bien.
Good morning, Corey.
Good morning, Michelle.
I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills, and every time, what is it?
Skills and identities.
To foster a new generation of, okay, let's go again.